Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Graines d'Orienté, édition 26. Je suis Juliette et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Graines d'Orienté, c'est un podcast où on parle de parcours d'orientation singulier et également de notre rapport au travail. Mon invitée du jour est Laetitia Vito. Elle est spécialiste des ressources humaines et également de la question du futur du travail. Et grâce à elle, on va pouvoir aborder ces questions sous deux angles, à la fois celui de la quête individuelle de sens et également au travers de son livre « Du labeur à l'ouvrage », au travers de la question plus collective des modes d'organisation du travail, des mots M-A-U-X qui y sont liés et des solutions que l'on peut y apporter. J'ai trouvé cet épisode absolument passionnant, j'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Laetitia, merci beaucoup d'être au micro de Graines d'Orienté.
Merci Juliette, je suis ravie d'être avec toi.
Je te reçois aujourd'hui dans le cadre de l'apparition de ton dernier livre, « Du labeur à l'ouvrage », qui, pour moi, a mis beaucoup de mots, comme je te le disais avant qu'on commence le podcast, sur des choses que j'ai pu ressentir au cours de mon parcours professionnel, notamment lorsque je me posais des questions sur le sens de mon parcours pro et de mon orientation. Et par ailleurs, je t'avais découvert, comme je te le disais aussi, dans des écrits de Welcome to the Jungle, où j'apprécie énormément la patte que tu y mets. Tu t'es imposée comme une experte des ressources humaines, du renouveau, du futur du travail, des RH. Donc c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. J'encourage d'ailleurs tous les auditeurs et auditrices à lire ton livre. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'en creuser tous les aspects. Il est extrêmement riche, notamment il y a tout cet aspect beaucoup plus historique où on va aller s'intéresser justement aux racines du problème. On n'aura pas le temps de le creuser. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut aller lire le livre. Et la toute première question que je voulais te poser, quand on lit ton ouvrage, ça semble assez évident que c'est le fruit d'une réflexion, bien sûr, mais aussi d'un parcours. Donc je peux pas commencer sans te demander de me raconter un petit peu ton parcours qui, à mon avis, explique en partie la genèse du livre.
Tu as raison, je suis ravie que tu le ressentes ça, parce que c'est le livre de quelqu'un qui aime lire, qui aime écrire depuis longtemps. Et mon parcours, c'est que j'aime lire et que j'aime écrire. Et du coup, je me suis laissée porter, comme beaucoup de gens. Je sais que tu as fait beaucoup de choses sur la question de l'orientation, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de bons élèves. Je me suis laissée porter, j'étais sur des rails. J'ai fait une classe préparatoire, je suis entrée à HEC. J'étais contente d'y entrer. Puis une fois que je m'y suis trouvée, j'ai pas compris où j'étais et ce qu'il fallait que je fasse. Parce que là, tout d'un coup, il y avait plus vraiment de rails. Et puis après, dans le monde du travail, plus vraiment de rails non plus. Et je me suis sentie perdue pendant assez longtemps. Et c'est en revenant à l'école, en revenant sur les rails de l'école, en passant à nouveau à un concours de la fonction publique pour devenir professeur, j'ai passé l'agrégation, je suis devenue professeur d'anglais et à nouveau je me suis mise à lire, à écrire, à me sentir en terrain familier. C'est ce parcours-là qui est vraiment un parcours scolaire au sens le plus noble du mot, parce que je trouve que le mot scolaire est très souvent un mot dévalorisé, c'est utilisé comme une critique ou une insulte. « Ah, mais ce que tu fais, c'est trop scolaire ». En fait, scolaire, c'est l'étude, ça n'a rien de négatif en soi. Quand on dit trop scolaire, on peut dire ennuyeux, mal écrit, on peut dire plein de choses, mais scolaire en soi, c'est pas une insulte, ça n'a rien de mal. Moi, je suis quelqu'un de scolaire. J'aime étudier, lire, apprendre tout le temps. Et mon mode d'expression privilégié, c'est l'écriture. J'aimais écrire des dissertations, j'aimais mettre ensemble des idées, leur donner de la cohérence et puis créer quelque chose qui a une forme d'unité avec un message, hein, ce qu'on appelle scolairement la problématique. Et j'ai gardé cette obsession de la problématique. Quand il n'y a pas de problématique, je trouve ça ennuyeux. C'est où ça va? Qu'est-ce que ça dit? Si ce ne sont que des faits, si du Wikipédia ou du une sorte de Wikipédia, quand il n'y a pas de problématique, moi, il y a quelque chose qui manque pour moi. Quelle est ta vision? Quelle est vers où tu vas? D'où tu pars et où tu vas? Et donc, ce livre, il doit refléter beaucoup ce parcours scolaire qui est le mien, qui est vraiment celui de quelqu'un qui aime lire et qui aime écrire. Et donc, j'ai fini par y revenir après un passage dans les ressources humaines, après avoir vécu dans ma chair exactement ce que tu as vécu aussi, qui est cette espèce de sentiment de pas tout à fait avoir sa place dans le monde du travail, de pas savoir qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut y être bien et comment on peut avoir quelque chose qui a du sens. Et donc, en ayant vécu ça dans ma chair, du coup, j'ai remis toutes ces compétences scolaires au service de ce sujet-là. Et de là est né du labeur à l'ouvrage.
Alors, si on revient sur les différentes étapes de ton parcours, donc tu as été, dans un premier temps, professeur.
Oui, donc j'ai été professeur, donc oui, je suis allée un peu vite là.
Mais non, mais comme
j'ai
ça,
été, on a... Donc, quand j'ai passé effectivement le concours de l'agrégation, je suis devenue professeur d'anglais. Et comme j'avais cette double casquette HEC, agrégation, du coup j'ai été recrutée, parce que c'est un vivier de recrutement beaucoup plus petit, parmi les professeurs de classe préparatoire. Et donc c'est un recrutement assez spécial, puisque ça se passe directement au niveau de l'inspection générale. Et là, c'est pas quelque chose d'anonyme, c'est on vient t'inspecter, te voir, te parler, t'entendre, et ça ne se passe pas de manière anonymisée par des concours. C'est un recrutement comme un recrutement en entreprise, si on veut. Et donc, j'ai été recrutée. L'inspectrice générale, en l'occurrence, est une femme que je continue de suivre de loin, parce que c'est une grande traductrice. Elle s'appelle Josée Camoun. Donc je ne l'oublierai jamais. Elle m'a donné cet accès à ce monde des classes préparatoires dont je venais aussi, et j'y ai enseigné pendant 8 ans.
Qu'est-ce qui t'a tiré dans le métier de professeur? Pourquoi, après être passé justement en classe préparatoire, tu avais envie d'y revenir? C'était ce goût d'apprendre, d'écrire,
ouais,
comme tu le décrivais?
J'ai adoré la classe prépa. La plupart des gens n'aiment pas la classe prépa. Ils disent, mais après, c'est le passage obligé, après tu t'éclates. Moi, je me suis pas du tout éclatée en école. J'étais paumée, complètement paumée. Et j'ai adoré les professeurs que j'ai eus. J'ai adoré... J'ai trouvé le temps et l'espace de lire malgré tout, parce qu'on peut quand même... C'est vrai qu'on est tenu dans un rythme qui est assez intense, mais moi j'ai trouvé l'espace pour lire et justement dans cette espèce de tension permanente de jouer entre cette charge de travail importante sur toutes les disciplines, j'arrivais à parfois dépasser, déborder un peu dans une discipline et lire un livre en entier et faire les choses bien, et c'était passionnant parce que c'était justement des gens qui avaient tous une capacité à te faire comprendre des enjeux complexes, à te faire comprendre le monde, avoir une vision historique des choses, avoir un peu de profondeur. C'était des années vraiment passionnantes. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait quand je suis arrivée en école de commerce, parce que c'est évidemment pas du tout la même chose. C'était beaucoup plus tourné vers le monde du travail, et c'est toi qui dois savoir ce que tu veux et où tu veux aller. Et moi, j'étais là, je buvais le contenu, hein, si on peut dire, qu'on voulait bien me donner. Et j'étais très contente comme ça, donc c'était très passif. Et finalement, quand je me suis posé la question de me reconvertir, parce que j'ai travaillé un petit peu en entreprise en étant très malheureuse, et c'est comme ça qu'après je suis devenue professeure, eh bien, quand je me suis posé la question, finalement, de revenir, je suis revenue aux fondamentaux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai aimé, et moi, l'univers de l'école, et tout particulièrement d'ailleurs de la classe préparatoire, c'est un univers dans lequel j'avais envie de revenir. Et le fait d'être de l'autre côté, finalement, ça changeait pas grand-chose, parce que, en fait, quand on enseigne, on apprend. Et finalement, et surtout les premières années où on doit se constituer un corpus, et notamment en langue, et à la fois la question linguistique, où moi au début j'étais pas encore au niveau, et puis toute la question histoire, civilisation, etc., où il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. J'avais juste passé un concours de l'agrégation, hein, donc c'était pas, j'avais pas ce bagage qu'ont des gens qui ont fait 10 ans d'études sur une discipline, pas 10 ans, mais 6 ans. Et donc je me suis formée à plein de choses, évidemment au fait de parler en public, d'aller sur scène, ce trac qu'ont les profs, c'est comme le trac des acteurs, hein, c'est que finalement à chaque cours on va sur scène avec un public qui est pas facile, qu'il faut captiver, à qui il faut donner quelque chose, c'est-à-dire on sait qu'il faut que ça leur serve à quelque chose, que ça les fasse grandir. Et en même temps, c'est un public qui ne vous passe rien, qui peut, on le sait, se moquer de vous parce que vous avez quelque chose qui dépasse, parce que vous avez un bouton, parce que ceci, ils peuvent être facilement distraits par n'importe quoi. Donc, il faut avoir une très grande rigueur dans la manière dont on s'exprime, savoir jouer, doser subtilement, un peu d'humour, une petite blague par-ci par-là. Je pense que ça a été un grand exercice pour moi pendant toutes ces années d'apprendre à parler en public, à essayer de capturer un auditoire.
Mais tu sens toujours habitée du coup par ce métier, alors pourquoi l'avoir quitté ?
Je ne l'ai pas quitté en fait, j'ai quitté l'éducation nationale. Je suis finalement redevenue prof d'une autre manière, en faisant des livres, en faisant des conférences, en faisant des contenus, en écrivant. J'enseigne encore, hein, j'ai enseigné de longues années à Sciences Po, un cours, j'ai créé un cours sur le futur du travail dans un master, il y a quelques années. Je suis intervenue à HEC, je suis intervenue à l'UM Lyon, j'ai enseigné 2 années à Paris Dauphine. Donc voilà, quasiment tous les ans, je vais avoir une activité vraiment purement d'enseignement, laquelle en général j'aime bien explorer quelque chose de nouveau, et puis avoir toujours cette transmission avec des étudiants, avec des jeunes à qui je vais avoir, je vais me donner cette mission de leur ouvrir des portes, et ouvrir les portes à tout point de vue. J'aime bien cette idée de leur donner aussi un peu de mon réseau à chaque fois. C'est-à-dire que ce soit des modèles que je leur donne à voir en faisant intervenir des gens, que ce soit des choses que je leur suggère d'aller voir qui vont les amener dans d'autres réseaux et dans d'autres univers en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et donc il n'y a pas que le contenu en lui-même, il y a vraiment cette idée d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est ça qui est important dans cette transmission-là. Du coup, c'est parce qu'on pourrait dire que du point de vue du contenu, c'est la même chose que de le faire avec un public de professionnels, mais en fait c'est pas la même chose parce que l'impact qu'on a sur leur vie et leurs décisions est potentiellement beaucoup plus grand. Et c'est du coup très gratifiant, très stimulant et très profondément utile.
Tu faisais l'orientation en fait.
Mais complètement. Ce qui est très difficile. Alors en classe prépa, pour le coup, c'était très difficile parce que je reconnaissais dans mes étudiants les comme moi. C'est-à-dire ceux qui étaient là sans vraiment savoir ce qui les attendait après. Et c'est très difficile parce qu'on peut pas leur dire, mais est-ce que t'es sûr que t'es là où tu voudrais être? Parce que, évidemment, en plus, souvent, c'est les bons élèves. Donc, il y a un conflit d'intérêts parce que moi, j'avais envie de les garder. Et puis, en même temps, j'avais envie de leur dire, mais tu sais ce qui t'attend? Là, l'école de commerce, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il faut déjà avoir un premier projet qui est pas forcément ton projet de vie, mais quelque chose qui te permet de mettre un pied à l'étrier, de démarrer quelque chose. Et qu'en fait, de rester complètement dans cette position de passivité, c'est la transition est très compliquée. Et donc je les voyais en fait ces étudiants étudiantes qui étaient un peu qui s'étaient laissés porter et dont je savais qu'ils seraient un peu paumés. Et évidemment il y en a toujours beaucoup et on peut pas tout faire. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai fait des cycles de conférences avec des entrepreneurs, avec des professionnels que je faisais venir devant eux pour leur donner à voir un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ce que j'ai fait, c'est parce qu'on avait beaucoup de calls, ce qu'on appelle les calls, donc des petites séances à deux, voilà. Exact. Mais c'est pas de l'interrogation, en fait. Moi, j'ai pas utilisé ça pour faire de l'interrogation, parce que la partie interrogation est pas si intéressante que ça. Ça, c'était 1 fois sur 5, peut-être. Et en réalité, c'était plutôt de l'accompagnement personnalisé. Donc, alors oui, après on peut mettre une note ou pas. Et d'ailleurs, on le dit, la note, c'est juste parce que il en faut une. Mais puis parce qu'il y a une partie où ils ont produit quelque chose, parce qu'on apprend en produisant quelque chose. Mais une grande partie du temps de ces calls, c'était en réalité de l'accompagnement plus personnalisé où j'allais les amener à chercher à définir leur projet. Il y avait des préparations aux entretiens aussi sur ces heures de call. Dans les préparations aux entretiens, c'est un travail plus d'atelier. Et oui, il y a cette notion d'orientation. Alors après, j'essayais de les aider à produire quelque chose par eux-mêmes, évidemment. Et parfois, j'ai toujours cette tentation de me dire, oh, mais tu es comme moi, tu devrais faire ça. Et c'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Mais sur ce jeu de miroir, quand on est passé par là, de se dire, je la reconnais, c'est un petit moi. Et ça, c'est un danger. Faut pas tomber là-dedans.
Et alors, à quel moment tu as décidé de quitter l'éducation nationale, du coup ?
Alors, je suis restée presque 10 ans, ce qui est quand même une belle tranche de vie. Je pense que j'aurais pas pu rester 10 ans dans un métier que j'aime pas, puisque tous les autres postes que j'ai eus, quand j'aimais pas, en général, ça a duré moins de 6 mois. Donc 10 ans, c'est la preuve.
Belle longévité.
Voilà, c'est la preuve d'un engagement solide et d'un amour du métier. Simplement, je pense qu'au bout de 10 ans, justement, la partie académique, je l'avais déjà passée. C'est trois ans qui sont stimulants, où on apprend des choses. Après, ben, on ronronne, on se répète. Donc, la partie académique, on l'oublie. On n'apprend plus grand chose. Il reste la partie, justement, de cette partie d'accompagnement qui reste toujours, on se sent toujours utile et c'est toujours gratifiant et c'est toujours agréable. Et puis après, la partie manquante, c'est qu'il n'y a pas de perspective de carrière ou d'évolution à titre personnel. Il n'existe pas la notion d'ambition n'existe pas. Tout est très, très normé. Donc, il y a des grades. Il faut attendre d'être inspecté. Il faut éventuellement solliciter des inspections. C'est beaucoup dans l'attente. Et puis, tout ça pour, en fait, changer de grade, c'est-à-dire avoir un salaire un petit peu meilleur. Donc, on voit que ça joue à des... Et parfois, il y a des politiques délibérées de freiner l'augmentation, la progression... des fonctionnaires pour limiter évidemment la masse salariale. Je crois que j'ai fait partie de cette génération qu'on a délibérément pas fait avancer aussi vite que les générations d'avant. Donc et ça a été aussi ma chance, c'est que du coup j'avais un grade bas. Donc le grade n'a rien à voir avec le niveau, hein, je précise, c'est pas comme dans les arts martiaux où quand on a une ceinture bleue où c'est mieux qu'une ceinture verte et une ceinture marron c'est encore mieux, c'est pas du tout ça, c'est vraiment l'ancienneté dans ce cas-là de plus bête et méchant. Et du coup il y a deux types de progression, enfin je vais pas aller dans les détails, hein, ça s'appelle le petit choix, le grand choix, c'est un truc hyper compliqué, c'est un système très qui a jamais été revu et qui est très à l'ancienne, ça fait vraiment ancien monde, et je suis pas trop rentrée dans ce jeu-là, et j'étais presque contente en fait d'avoir un petit salaire, parce que du coup je me dis moi j'ai pas grand-chose à perdre en fait, ça a été une possibilité pour moi de sortir, alors que si j'avais été au grade le plus élevé, je pense que du coup le coup de sortie est plus fort, parce qu'on se dit est-ce que je peux, c'est trop confortable, est-ce que je peux avoir un boulot aussi bien payé ailleurs. Donc moi j'avais pas ça.
Alors comment tu te sens au moment où tu pars de l'éducation nationale et vers quoi tu vas te tourner ?
J'ai mis plusieurs années à me chercher un petit peu, et dans cette manière de chercher, j'étais toujours encore un peu paumée, c'est-à-dire je savais pas du tout où je voulais aller. Et donc j'ai exploré d'abord tout ce qui était fonction publique, donc les concours. Donc je me suis dit non, tout ce qui est administratif, non, j'ai pas franchement envie d'être proviseur ou choses comme ça. Donc ça non. Concours dans d'autres ministères. Donc c'est comme ça que j'ai envisagé. On en parlait tout à l'heure. Le Quai d'Orsay, parce que moi, tout ce côté, j'aime bien tout ce qui est international, les langues et tout. Je parle allemand, donc je pouvais passer un des concours ou en interne l'allemand avec anglais et allemand, c'est possible. Et donc j'ai préparé ça pendant un an. Du coup là aussi, j'étais à nouveau dans la position d'élève. J'ai lu des choses, des choses sur la diplomatie, etc. Donc c'est en soi, ça a été une année intéressante. J'ai lu plein de choses que j'aurais jamais lues autrement. Et où en plus, comme c'est ce concours-là est très axé sur l'Europe centrale, ça m'a amené justement vers des zones qui m'auraient pas forcément attiré comme ça spontanément, des choses où il y a des histoires très complexes, et ça a été une année intéressante où j'ai lu pas mal de livres d'histoire, j'ai vraiment bien aimé. Évidemment le concours n'a rien donné, de toute façon il y a une place pour 400 personnes, la plupart c'est des gens qui sont déjà au Quai d'Orsay, donc qui maîtrisent un certain nombre de codes, qui sont secrétaires et qui veulent passer cadre en fait, c'est encore une histoire de statut différent, et dont pour qui la seule possibilité d'ascension c'est le passage de ce concours-là. Et donc en fait ce concours est ouvert en interne à l'ensemble des fonctionnaires, et évidemment il y a un nombre fou de gens qui en ont très très envie et qui maîtrisent bien les codes, etc. Et j'ai jamais eu aucun retour sur en fait sur où je me situais, où était, il y a aucune information sur barre d'admissibilité, il n'existe pas d'annal. Il n'existe rien pour ajuster la préparation du concours, savoir où on était et où il faut aller. Et du coup, j'ai senti que j'allais pas continuer. Et la tentation après n'a pas été si grande de continuer, parce que je me suis dit que c'est pas forcément un des postes qui m'aurait convenu et qui m'aurait plu. Où on n'est pas libre d'écrire ce qu'on veut, hein. On écrit des éléments de langage, c'est pas forcément très épanouissant. Donc ça a été une chance aussi, je l'ai raté, et ça a été très bien. Et puis ensuite j'ai commencé, c'était les débuts de la construction de l'écosystème des startups à Paris, et j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, à m'intéresser à l'histoire du numérique, à commencer à rencontrer des gens. J'ai fait la formation de The Family qui s'appelle Coup d'État, la toute première année, c'était en 2014, je crois. Et rencontrer plein de gens passionnants, dont beaucoup étaient aussi dans cette espèce de recherche de qu'est-ce que je peux faire, est-ce que l'entrepreneuriat c'est pour moi. Et l'entrepreneuriat c'est clairement pas pour moi, mais c'est pas grave, ça a été un moment important dans cette recherche que j'ai faite, cette phase d'exploration que j'ai faite tout en étant prof, et qui en tout aura duré 2-3 ans avec des choses très très différentes. Et finalement, ça a quand même abouti à une forme de projet qui a aussi été un échec, mais les échecs c'est toujours très bien puisque ça amène à autre chose et on n'échoue pas pour rien en fait, hein. Et donc j'ai eu le projet de travailler dans les ressources humaines pour une entreprise tech. Et les entreprises françaises ne s'intéressent pas à vous quand vous êtes professeur. Vous n'existez pas comme vous n'êtes pas dans le champ de vision. Vous ne faites pas partie du vivier des personnes potentiellement recrutables, quelle que soit votre personnalité, quel que soit vos diplômes, etc. Donc c'est quand même assez. J'ai compris que c'était pas possible et c'est comme ça que je suis partie de France, de Paris et de France et j'ai rejoint une entreprise américaine de la tech à Londres. Et donc j'y ai fait du recrutement. Et ça n'a pas beaucoup duré parce que finalement, comme dans toutes les boîtes où j'ai vécu, j'ai pas supporté d'être managée et j'ai mal vécu une relative absence de liberté, le fait aussi que ça me correspondait pas parce que je pouvais pas être scolaire, je pouvais pas écrire, lire et écrire, c'était très opérationnel, c'était pas des choses où j'étais très bonne. Et c'était pas des choses où je m'épanouissais, parce que j'étais pas bonne, parce que ça m'intéressait pas non plus. Donc je suis partie. Donc j'ai choisi de partir assez vite, et c'était aussi une expérience d'échec. Mais c'est à ce moment-là, lors de cet ultime échec, pas ultime, j'en aurai d'autres, hein, mais ce dernier échec-là, qui m'a amenée enfin à prendre cette décision que j'aurais pas pu prendre avant, de devenir indépendante et de créer ma propre entreprise, mon propre projet, d'utiliser ça comme un véhicule pour faire avancer mon propre parcours et ma carrière. Et ça fait maintenant presque 5 ans, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Et maintenant, je sais que je vais rester indépendante un bon moment. J'exclus pas, il n'y a pas la peine d'exclure quoi que ce soit un jour, mais pour l'instant, c'est un véhicule qui me convient très très bien parce que j'ai pu vraiment faire avancer, y donner de la cohérence. Le tout début, on a beaucoup d'activités disparates qui sont en partie alimentaires, en partie pas du tout, et on ne sait pas comment on construit un profil, une cohérence dans tout ça. Petit à petit, on crée une marque, on crée quelque chose qui a un peu plus de cohérence, un peu plus de visibilité, on se construit une légitimité, on devient crédible, on devient visible, identifiable. Et moi, j'ai creusé ce sillon autour du sujet du futur du travail à force de rencontres, de lectures, de rédaction d'articles, de livres blancs et de livres. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise et construit mon projet autour de mon entreprise Cadre Noir.
Tout à l'heure, tu me disais que l'entrepreneuriat, c'était pas pour toi, en tout cas quand tu avais fait la formation Coup d'État. Est-ce qu'il y avait des craintes particulières, des difficultés qui te semblaient importantes au moment de prendre cette décision d'être indépendante?
Oui, en fait, moi, je le suis devenue parce que je n'avais rien, pas de boulot. À un moment, il n'y avait pas de différence entre chômeur et indépendant au début. Surtout que moi, j'avais pas le chômage, puisque n'étant pas en France, c'était pas une rupture conventionnelle. Et donc là encore, une chance. Comme quoi, à chaque fois, parfois, le manque d'argent, et évidemment que c'est pas la raison principale, mais c'est une contrainte qui devient une sorte de, qui t'aide dans ta prise de décision et qui t'aide à faire avancer quelque chose. Et c'est pas un sujet dont on parle beaucoup quand on parle de sens, etc., etc. Et pourtant, c'est un vrai, vrai sujet. Et donc, moi, n'ayant pas de revenus, il fallait bien que je professionnalise ça très, très vite. Et c'est pour ça que je dis que ça a été une chance, c'est que, bien que c'était quelque chose de très douloureux et de difficile, c'était beaucoup de stress. C'est-à-dire, j'ai 2 mois pour créer des revenus. Mais en fait, ça a quand même permis d'accélérer, d'aller très vite et de très vite aussi me voir comme une professionnelle et pas comme quelqu'un qui reste. C'est un peu le danger. C'est à la fois un avantage et un danger, mais beaucoup de gens qui sont en rupture conventionnelle et qui utilisent cette phase intelligemment pour préparer une transition, mais finalement, parfois, ils ont trop de temps et puis ils font trop de choses bénévoles et puis, en fait, ils se prennent pas eux-mêmes au sérieux. Et c'est... Dans ce cas-là, c'est presque un inconvénient parce que justement le fait de pas avoir cette pression-là ne les invite pas à se professionnaliser plus vite. Globalement, je trouve quand même que c'est une chose formidable, la rupture conventionnelle, bien sûr.
Pourquoi avoir choisi de creuser, comme tu le dis, le sillon du futur du travail? Et ça fera le lien avec du labeur à l'ouvrage.
Alors d'abord, je l'ai vécu dans ma chair, tout ce que je te disais, le fait d'être paumé, de sentir qu'il y a une transition, le fait d'être passé de salarié à fonctionnaire dans une entreprise américaine, à chômeuse / indépendante, à indépendante chef d'entreprise. Maintenant, j'aime bien même le terme de chef d'entreprise. Ça montre déjà qu'on est quelque chose, qu'on est assis sur quelque chose qui est plus solide. Mais tout ça, toutes ces transitions personnelles et puis tous ces moments de douleur, de quête, de recherche, de relative insatisfaction, tout ça faisait que j'ai senti que ce sujet-là était un sujet qui me touchait de près. Et puis, au niveau plus intellectuel, et là on rejoint le côté scolaire, le sujet du travail est un sujet qui rejoint énormément qui est au croisement de toutes les disciplines, qu'il s'agisse de la politique, de la sociologie, de l'économie, qu'il s'agisse de la psychologie. Enfin, en fait, on voit que c'est un sujet d'une richesse infinie et que si on y met un tout petit peu de profondeur historique, donc l'histoire dedans, tout de suite, on peut arriver à quelque chose de très intéressant. En fait, c'est un sujet dans lequel il y a tout. Il y a absolument tout. Et on peut le prendre sous beaucoup d'angles. Et moi, j'ai exploré beaucoup d'angles. Au début, quand j'ai commencé à écrire sur le futur du travail, j'ai vraiment exploré plus ce sujet individuel de la quête parce que j'ai écrit pour Switch Collective. Et donc avec Clara Delétraz et Béatrice Moulin qui avait fondé Switch Collective il y a maintenant 4 ans. J'ai du mal avec les dates, je sais plus si c'est
ouais, je crois à peu près.
À ce moment-là, j'avais commencé à écrire pour le blog de Switch Collective et donc le sujet c'était beaucoup un sujet plus individuel que collectif et sociétal. Mais dans Switch Collective, il y a collectif, donc il y avait un peu ce mouvement de balancier entre les deux sujets et puis moi je sentais que j'avais envie aussi d'aller vers des sujets qui me plaisaient, les sujets de prof sur les grandes tendances, les grandes transformations, l'histoire du travail, l'histoire du syndicalisme, l'histoire du salarié. En fait, il y a évidemment tellement de matière. On peut vite se plonger dedans quand on est une personne scolaire qui aime lire.
De quoi la quête de sens, l'ennui au travail, le burn-out sont-ils les symptômes?
Ils sont les symptômes d'une transition que nous vivons qui n'est pas qu'un buzzword, qui est une réalité, qui est que nous avons hérité d'un modèle, d'un contrat qui est en train de se déliter. Or, on a énormément mal à s'en défaire. Et ce contrat, c'est ce que j'appelle le contrat fordiste ou le contrat de labeur dans mon livre, qui est basé sur un échange entre le travailleur et l'entreprise, et l'organisation, qui est le suivant, en échange de la division du travail, donc d'un travail morcelé et aliénant, et de la subordination, l'obéissance à un supérieur, vous aurez un agrégat d'avantages multiples assez irrésistibles que sont la stabilité de l'emploi, le salaire qui tombe en fin de mois, la progression salariale grâce à des syndicats puissants, donc la promesse d'enrichissement, puis un bon partage de la valeur, en fait un bon salaire aussi, hein, pas juste un salaire, un bon salaire. Vous allez aussi avoir des nouvelles institutions qui se mettent en place petit à petit, des congés payés, la protection sociale, l'assurance maladie, les congés divers comme maternité, paternité, etc. L'accès au logement via le crédit bancaire qui est rendu possible avec cette promesse de solvabilité. Donc le logement va avec aussi. Et la retraite, les revenus différés, etc. Après, on a même des questions identitaires, identité qui est une identité qui est sociale, l'idée d'avoir une place et tout. Et donc tout ça, ça faisait que la division du travail et la subordination étaient acceptables parce que les contreparties étaient fortes. Or, ces contreparties, elles se désagrègent progressivement. Elles n'ont pas toutes disparu, mais elles se désagrègent progressivement depuis presque 40 ans déjà, avec mondialisation, désindustrialisation, déclin des syndicats, financiarisation de l'économie, révolution numérique, enfin. Toutes ces choses font que la plupart de ces contreparties ne sont plus les mêmes. La première, déjà, c'est le partage du gâteau. Le livre de Piketty est sorti presque en même temps que le mien. Je crois que c'est un signe, n'est-ce pas? Cette idée que, effectivement, le partage de la valeur a évolué profondément depuis 50 ans et que la part du gâteau qui est gardée par les travailleurs, elle est beaucoup plus faible qu'avant. Les inégalités se sont creusées très fort. Donc, on a, pour certains métiers, pour beaucoup de gens, une paupérisation qui peut être, qui ne peut n'être que relative, mais qui est parfois absolue aussi. Et on a beaucoup de gens qui travaillent dur, etc., mais qui n'ont plus l'accès au logement, par exemple. Alors qu'avant, ça faisait partie du package. On a des gens qui ont tous les éléments de l'aliénation, mais qui n'ont pas la sécurité de l'emploi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de... En fait, la partie subordination et division du travail, elle est restée là, à peu près dans toutes les organisations qui ont hérité de l'organisation scientifique du travail. Elle n'a pas trop bougé, en fait, même si elle se donne des airs différents, elle a un autre look, mais elle est là. Or, les contreparties, elles sont plus tout à fait les mêmes. Et du coup, faute de contreparties suffisantes, il y a un questionnement beaucoup plus fort autour de cet héritage de l'organisation scientifique du travail. Pourquoi vais-je accepter l'aliénation si je n'ai pas les contreparties? Et donc, c'est pas parce que nos ancêtres, nos parents ou nos grands-parents, en l'occurrence, s'éclataient dans un travail à la chaîne. Pas du tout, ils se posaient pas la question comme ça. C'est juste que les contreparties étaient importantes. Et donc, c'est comme ça que j'interprète le phénomène du rejet des bullshit jobs, le concept même, la notion de quête de sens. En fait, il y a aussi la perte de quelque chose qui était collectif. Parce que le contrat de labeur, bien que basé sur deux choses pas très cool, que sont la division du travail et la subordination, il reposait sur des institutions qui sont devenues des institutions collectives. Donc le syndicat, le pouvoir politique qu'il y a derrière, donc le poids politique, et c'est le politique qui faisait une partie qui a fait un édifice qui a permis une redistribution, une bonne redistribution des richesses. La sécurité sociale, c'est une organisation collective. Enfin, tout était des collectifs forts, et du coup, c'était un contrat standardisé. Et maintenant que ça vole en éclats, eh bien, on a une quête qui est une quête très individuelle, mais où tout le monde se sent mal parce qu'on est tout seul. Et en fait, on n'est pas tout seul. Donc, en fait, il faut remettre de... Donc, certes, maintenant, on va arriver à personnaliser davantage, à aller vers autre chose, quitter cette aliénation-là pour aller davantage vers la notion de contrat d'ouvrage, donc retrouver les valeurs de l'artisanat, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de créativité au travail, une organisation du travail qui est profondément différente. Et c'est ça, c'est une aspiration profonde. Mais ensuite, essayer de recréer les contreparties aussi, parce que on faut bien vivre, il faut bien se loger, s'assurer, nourrir ses enfants, assurer son avenir, et un jour, on sera peut-être en situation de dépendance, donc il faut être sûr qu'on puisse avoir des revenus quand on aura 80 ans et qu'on n'a plus envie de travailler. Donc tout ça, il faut bien le recréer, mais maintenant, on est dans une position de... Certains privilégiés sont en position de recréer un contrat bien différent et bien plus favorable. Mais il ne faut pas oublier que ce contrat ne peut pas être strictement individuel. Parce que s'il est strictement individuel, en fait, on n'arrivera pas à recréer les contreparties. Et puis, le risque, c'est que 95% des gens restent dans un contrat de labeur dégradé. C'est-à-dire la même chose que le contrat de labeur, mais sans la sécurité, et avec une pauvreté bien plus grande, et avec pas de protection face à la maladie, face aux accidents, pas de retraite, pas de logement, et que sais-je encore. Et ça s'appelle l'esclavage.
Avant de revenir sur cette notion d'ouvrage, je voudrais faire un petit focus plus particulier sur la construction des parcours pro d'orientation de jeunes dans ce contexte, comme tu l'écris, avec des conditions finalement qui sont quand même assez dégradées en fait. Quelles sont les difficultés spécifiques que les jeunes rencontrent aujourd'hui pour construire leur avenir professionnel? Comment se retrouver dans la jungle du travail? Et est-ce que il y a une voie possible là-dedans, parce que c'est vrai qu'on se résigne presque un petit peu en se disant, bon, ben, on va devoir accepter des jobs de plus en plus précaires, des contrats de plus en plus courts. Et d'ailleurs, certains jeunes même l'ont complètement intégré et ça devient même plus, le sacro-saint CDI n'est même plus la norme. Quelle place pour les jeunes aujourd'hui dans ce monde pro?
Alors, dans ce monde où on sait ce qu'on ne veut pas, puisque même s'ils ne le disent pas comme ça, ce qu'ils ne veulent pas, en fait, c'est l'organisation scientifique du travail. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est le même type de subordination qu'ont vécu leurs parents et leurs grands-parents. Encore une fois, faute des contreparties, même s'ils ne le formalisent pas. Et ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Beaucoup le sentent, même s'ils n'ont pas mis des mots dessus. Si j'ai pas envie de ce travail-là. Et ils n'ont pas mis des mots dessus dans le fait de dire aussi que c'est parce qu'il n'y a pas de contrepartie qu'ils n'en veulent pas. Parce que c'est déjà tellement intégré qu'en fait, ils n'ont même plus besoin de se le dire à eux-mêmes comme ça. mais ils ne savent pas exactement ce qui est possible et ce qu'ils peuvent faire. Certains, les plus avancés dans cette quête, le savent et l'ont interprété et ont mis des mots dessus. Ils se disent « bon sang, mais c'est bien sûr, il faut que je sois indépendante, je vais devenir freelance, je vais exercer tel métier dans telles conditions, je vais réussir à rassembler tous les éléments de l'agrégat des salariés par moi-même, librement et mieux, et je n'aurai ni division du travail, ni subordination ». Et ça, dans les freelances d'aujourd'hui, il y en a qui l'ont compris, qui le savent, qui l'ont dit, je n'ai pas envie d'être salarié. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de retourner au salariat, ou qui savent que s'ils y retournent, c'est un petit moment, le temps de signer un bail, par exemple. Et après, ils redeviendront indépendants. Dans l'informatique, et parce que l'informatique, il y a un marché qui est souvent en tension, donc il y a quand même pas mal de demandes, et ça met les travailleurs en situation de pouvoir plus facilement imposer leurs conditions. Et là, il y en a beaucoup qui se réclament délibérément des valeurs de l'artisanat. C'est toute la notion d'artisanat du logiciel, software craftsmanship, qui est très présente dans la culture de tous ceux qui ont créé l'open source, de tous ceux qui je sais pas, qui collaborent sur GitHub, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très formalisé. Mais ça, c'est une minorité. De même que ceux qui décident qu'ils veulent retravailler de leurs mains et devenir néo-artisans, c'est une minorité aussi. La plupart sont entre les deux. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils voient ce que d'autres font. Mais ils se disent, mais moi, où est-ce que je m'inscris dans tout ça? Parce que c'est difficile du jour au lendemain de se dire je me lance en indépendant quand on a fait du marketing ou quand on a fait justement des ressources humaines ou quelque chose comme ça. C'est pas il y a des choses qui sont plus difficiles à packager en mission freelance ou à vendre sur une plateforme. C'est pas si facile que ça. Et donc là, ils testent et certains effectivement testent pendant leur période d'essai des postes. Ils se disent est-ce que dans cette boîte là la culture est différente, est-ce que je vais y être bien, et ils se disent parfois à juste titre que dans les startups c'est parfois plus facile que dans les très grands groupes où on a beaucoup de silos, où on a beaucoup de hiérarchies, où on a beaucoup de processus longs et de validations longues. Et parfois, ils ont tort. Parce que...
Est-ce que les startups, c'est vraiment le nouvel Eldorado?
Voilà, parce qu'en fait, les startups sont des entreprises comme les autres, mais plus jeunes et plus petites. Et puis parfois, quand elles grandissent, elles font la même chose que les grandes, et elles ont le même problème, un problème assez universel. Quand on passe de 50 ou de 30 à 200 employés, on a les mêmes problèmes, parce qu'il faut créer des processus, il faut que la boutique tourne, quoi, et du coup on est obligé de mettre en place des processus. On n'est plus dans le 0 à 1, on est dans le 1 à N, et c'est plus la même chose et ça fonctionne plus pareil. Et puis dans ces entreprises, il y a des humains, et du coup ces humains là ils ont leurs défauts aussi. Il y a des jeux politiques, il y a des jeux d'alliance, et on se rend compte que finalement non, c'est pas un groupe d'artisans qui se mettent à travailler ensemble, et donc c'est très variable d'une entreprise à une autre, et des entreprises dans lesquelles oui on va se sentir bien et pouvoir s'épanouir, et d'autres pas tant que ça. Et l'avantage des startups, c'est que ça bouge plus vite, et cette idée de tester d'un côté comme de l'autre est beaucoup plus acceptée, et du coup ça se diffuse aussi dans d'autres univers. Maintenant, c'est absolument l'idée que une période d'essai dans un CDI est une période d'essai pour les deux, c'est-à-dire pour le salarié comme pour l'entreprise, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. On se teste, on se cherche pendant cette période d'essai. Et depuis 10 ans, le nombre de gens qui partent avant la fin de leur période d'essai a augmenté d'un bon tiers. Et ça, c'est tout métier confondu, hein. Donc ça veut dire qu'un bon tiers, vous imaginez que dans certains métiers, notamment urbains et métiers de la connaissance, et ça, c'est beaucoup plus élevé en fait, parce que dans d'autres métiers, ça l'est moins. Donc ça, c'est une mini révolution de ressources humaines aussi, qui rend la vie des professionnels de ressources humaines plus difficile. C'est plus difficile de faire des RH aujourd'hui parce que on se dit mais bon sang, mais qui sont ces capricieux qui dont on ne sait même pas exactement ce qu'ils veulent, pourquoi partent-ils, j'en avais un bien, il est parti, ou j'arrive pas à recruter, pourquoi est-ce que j'arrive pas à recruter, comment trouver la perle rare, où est le mouton à cinq pattes, etc. Et toutes ces phrases, toutes ces recherches des DRH, elles sont caractéristiques, elles sont partagées par tous. Et parfois, ils ont pas cette vision d'ensemble des choses, ils comprennent pas toujours que, en général, s'ils n'arrivent pas à recruter, c'est que le contrat qui est proposé, et je parle pas de contrat salarié ou pas salarié, ne tient pas la route.
Alors, c'est peut-être le bon moment, justement, pour creuser cette notion que tu as évoquée à plusieurs reprises, qui est celle de l'artisanat, de l'ouvrage. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu plus ce qui, d'ailleurs, sous-tend tout ton livre? Je vais poser une question volontairement un peu naïve. Demain, tous ébénistes, en fait, ouais. C'est ça?
Excellente question. Non, l'artisanat, je ne le prends pas au sens strict des métiers, travaux manuels, justement, ébéniste, charpentier, plombier, etc. Bien que je l'inclue aussi dedans. Et d'ailleurs, j'en parle pas mal dans mon ouvrage. Mais je parle plutôt de l'artisanat au sens d'une forme d'organisation du travail. D'autres pourraient appeler ça l'entreprise libérée ou l'entreprise opale ou que sais-je encore. C'est une forme d'organisation du travail qui s'oppose à l'organisation scientifique et au morcellement des tâches pour reposer sur des valeurs différentes que sont l'autonomie, donc des gens qui mettent en œuvre un certain nombre de moyens d'une manière autonome pour arriver à un objectif, qui sont responsables de ce résultat, donc qui ont un sens de l'impact de leur résultat, qui ont une vision du produit fini, que ce produit soit un bien, un service ou autre chose, une vision d'ensemble, une compréhension de l'impact, et une créativité. Là aussi, la créativité, c'est pas forcément d'être Léonard de Vinci, c'est tout simplement faire quelque chose où on laisse un peu de soi-même, on laisse un peu de son identité, on n'est pas un élément interchangeable dans une machine. Et pourquoi est-ce que c'est une période qui est particulièrement propice au retour de l'artisanat? C'est parce que on est arrivé à un stade où tous les one best way physiques, on les a déjà automatisés par des robots. Donc ça, c'est déjà fait dans les usines. Il y a quand même plus beaucoup d'ouvriers sur les chaînes d'assemblage. Il reste quelques ingénieurs, quelques opérateurs qui font tourner des machines, mais les usines, il n'en reste plus beaucoup. Les ouvriers, il n'en reste plus beaucoup. C'est vraiment un nombre marginal de la population, un pourcentage marginal de la population active. Et on est en train de commencer à faire la même chose dans les métiers non manuels, non physiques, où les tâches qui peuvent être modélisées sous forme de one best way sont les tâches qui sont pré-automatisées, qui sont par définition qui peuvent être programmées et qu'un logiciel pourra faire. Donc il s'agisse de n'importe quelle tâche qu'on peut catégoriser comme une tâche intellectuelle. Si c'est une tâche pour laquelle il existe un one best way, c'est que par définition, c'est quelque chose qui peut être programmé. On est en plus à une période où il y a un nouveau paradigme économique qui s'installe, qui est celui du numérique, où la grande échelle, voire la très grande échelle, ne nécessite plus la standardisation. Parce que un modèle de start-up vise à servir un nombre de clients immense, potentiellement 2 milliards comme Facebook ou plus encore comme Google, avec la plus haute qualité possible, sans compromission sur la qualité. Et avant, à l'ère industrielle, il y avait un compromis sur la qualité. C'est qu'on standardise, la qualité est relativement plus médiocre, on personnalise pas, mais c'est fiable et du coup on peut servir un marché, un grand marché. Si on peut standardiser, on peut passer à l'échelle et on peut servir un marché important et du coup produire en grande série, production de masse, consommation de masse, production de masse. Et aujourd'hui, non seulement on a des imprimantes 3D qui nous permettent de concevoir des prototypes hyper vite, mais en plus on a cette idée qu'avec les algorithmes on peut avoir une interface hyper personnalisée pour chacun, qu'on peut avoir le plus haut niveau de qualité de service avec un niveau de personnalisation totale. Donc, ce qui était impossible à l'âge industriel et ce qui rejoint davantage la notion d'artisanat avec l'hyper-personnalisation. Enfin, Dernier point sur cet âge de l'artisanat. Les métiers de demain sont des métiers de relations humaines, des métiers notamment de services et de services de proximité, dans lesquels finalement la valeur se trouve précisément dans les échanges et le caractère unique et singulier du lien qui se noue, qui se tisse entre deux personnes. Et ça aussi, si c'est pas l'artisanat, je ne sais pas ce que c'est.
Est-ce que ce contrat-là, il est facile aujourd'hui à traduire pour une grande entreprise classique, française, qui n'est pas du tout sur un modèle Opale, en termes de pratique managériale. Est-ce que toi, tu constates des évolutions en France, en tout cas?
Alors, ce qui est sûr, c'est que on est un moment où tout le monde est très réceptif sur ces sujets. Et beaucoup de grandes organisations sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc entament énormément de réflexions. C'est pour ça que ce buzzword de futur du travail maintenant est omniprésent.
Et parfois pour légitimer des choses qui ne sont pas vraiment
oui,
du futur du travail.
Avec tout et n'importe quoi dedans, mais le mot, le concept, le oui. fait que ça soit si présent nous montre bien qu'effectivement on touche du doigt le fait qu'on soit dans une phase de transition profonde. Oui. Et beaucoup on parlait des professionnels de ressources humaines tout à l'heure, mais des managers en tout genre et les directeurs et directrices de l'innovation dans toutes les grandes entreprises sont obsédés par ça, obsédés par le sujet de la transformation. Derrière lequel on met tout et n'importe quoi aussi, mais ils sentent bien qu'il y a un sujet, qu'il faut faire des choses, et donc dedans beaucoup de choses sont testées. Après il y a des modes selon les années, ces différents concepts qui sont adoptés, qui sont testés. Après, en France, on a une culture pyramidale très forte, on a une culture de l'adéquationnisme très forte.
Je m'en lamente.
En croisade quotidiennement contre la culture de l'adéquationnisme à la française. Et en même temps, contrairement à l'Allemagne, qui est également très adéquationniste, en Allemagne, il y a une culture de la mobilité interne très forte. Et notamment des ascensions parallèles, c'est-à-dire si tu n'as pas fait les grandes études, tu as cette tradition allemande de tu vois des PDG qui étaient ouvriers à l'origine au début de leur carrière, tu vois, tu as cette mobilité interne très forte. Ces gens à qui on donne des nouvelles opportunités à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, alors qu'en France, on a cette espèce de vision terrible à l'ancienne, qui est en train de changer, mais terrible de « ah bah t'as tel diplôme, voilà ta vie ». Et puis, c'est fait. Donc si tu as loupé X et que c'était l'ambition de ta vie, tant pis pour toi. Toute ta vie, tu vivras avec l'idée que tu as raté X et ça va te définir. Et ça va te définir pour toujours. Et ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Donc évidemment, c'est beaucoup trop tôt de déterminer une vie à 18 ans, à 20 ans, ou à 20 ans en l'occurrence, quand ils passent les concours. Donc on reste sur ce modèle-là, et un modèle qui en plus est très pyramidal, avec des hiérarchies. On a beaucoup de couches, on a plus de couches qu'ailleurs, clairement. Donc ça fait beaucoup de problèmes, avec en même temps après des silos importants, des vieilles organisations qui étaient des empires industriels. C'est-à-dire que la France, on était très fort à l'âge industriel. Donc on a cet héritage-là. Et c'est plus difficile de s'en défaire parce qu'on était bon. Et alors que si on avait été mauvais, on passerait à la suite directe sans problème. Et là, non, on veut pas les laisser partir. Donc on est là, l'industrie. Pour toutes ces raisons-là, on a quelques problèmes spécifiques en France, même si c'est assez universel. Mais là, on a quelques problèmes spécifiques. Et les grandes organisations, elles n'ont pas fondamentalement quitté l'organisation scientifique du travail. On est toujours sur, du coup, alors cet adéquationnisme très fort dès le départ, des boulots très 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 normés, des postes très normés, très codifiés, après une hiérarchie quand même assez lourde, beaucoup de couches, et en plus des silos qui se parlent pas. Et donc quand on a fait telle discipline, on est dans telle discipline. Et donc c'est très difficile de passer à un modèle où il faudrait casser tous ces silos et transcender cet héritage.
Donc, par les grandes. Pourquoi il faudrait commencer ?
Je doute beaucoup du fait que des grandes organisations d'aujourd'hui en soient capables. Certaines, je l'espère, le seront, mais pour l'essentiel des gros paquebots qui sont nos fleurons du siècle passé, je ne sais pas si ces paquebots survivront. Ils ont encore des moyens, des ressources, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils il y a une perte de vitesse très importante. Pour beaucoup, ils sont en train de se faire marginaliser dans les chaînes de valeur. On leur prend des marges au niveau de la relation avec l'utilisateur final. par exemple, les grands acteurs de l'hôtellerie, on prend leur marge au niveau de la réservation, mais on les attaque aussi avec des modèles différents, type Airbnb. Et pour beaucoup, par exemple, le monde de la banque, il vit finalement d'une situation de rente, qui est un univers extraordinairement réglementé et protégé. Quand on a un acteur en place, et donc là, tu te dis, c'est bon, je suis tranquille, je suis protégé par le système. Et donc, j'ai pas besoin de bien servir le client. Et quand on est une grande banque, en plus on a cet avantage de se dire, bah, de toute façon il y a des coûts à la sortie très forts. C'est pénible de quitter une banque. Il faut reprendre tous les prélèvements, donner un nouveau RIB à tous les gens qui nous prélèvent automatiquement, idem avec tous les gens dont on reçoit de l'argent. S'il y a un gros effort, c'est pénible. Alors du coup, on supporte un service client qui est pas terrible, une interface qui est pas terrible, un design qui est pas terrible. Il faut vraiment qu'il arrive un truc horrible pour que peut-être on franchisse le pas. Et donc ils vivent de ça. Ils vivent du fait qu'il y a une barrière à la sortie. Et ça, pour moi, c'est intolérable qu'on garde ses clients juste parce qu'il y a une barrière à la sortie ou qu'il y a une protection, une situation de rente. Moi, je suis pour qu'on me fiche un grand coup de pied là-dedans. Si vous êtes bon, gardez vos clients, mais gardez vos clients parce que vous êtes bon, pas parce que vous avez juste des barrières à la sortie. Et donc ça, je pense que c'est une situation de transition parce qu'ils cherchent beaucoup à conserver leurs barrières et pas à mieux servir leurs clients. Et donc, mine de rien, il y a quand même d'autres acteurs qui arrivent. Hein. Dans le monde des banques, c'est toutes les fintechs. Dans le monde des assurtechs, c'est des nouvelles compagnies d'assurance qui proposent des interfaces et des services meilleurs. Les banques, ça commence à faire du chiffre. C'est-à-dire que les Conto, Shine, Revolut, TransferWise, N26, toutes ces néobanques commencent à avoir beaucoup, beaucoup de clients parce que tous les nouveaux entrants, les jeunes, vont pas chez les vieilles banques. Mmh. Et donc, une fois que leurs baby-boomers sont partis, dans l'autre monde et que ils vont se retrouver avec une base et une situation où ça va être très difficile d'avoir de la croissance, bah, petit à petit ils vont se rétrécir quoi. Je pense ils vont pas mourir du jour au lendemain, mais ça va devenir, ce sont des organisations qui ont beaucoup d'avenir. Ah oui, ils tentent beaucoup de choses. Les grandes banques font plein de choses. Ont tous des directions d'innovation extraordinairement entreprenantes, des gens talentueux et beaucoup de gens talentueux dedans. Mais d'une manière ou d'une autre, cet héritage n'est pas facile à transcender. Et puis il y a trop de problèmes qui font que, en fait, c'est impossible pour les talents entreprenants et artisanaux de réussir des transformations durables et convaincantes.
Ma toute dernière question, enfin peut-être mon avant-dernière question, mais je vois que le temps file. Il y a un passage qui m'a énormément intéressée dans ton livre, c'est celui sur les infirmières. Ma maman est infirmière, ma belle-maman est infirmière. C'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai trouvé ça passionnant parce que on parle souvent du futur du travail avec ce prisme-là, en tout cas dans nos milieux plutôt urbains, citadins. Tu décris cette situation de dégradation extrême de leurs conditions de travail. Tu reviens sur, et c'est passionnant, sur l'histoire de
Florence Nightingale.
Du métier d'infirmière. J'invite vraiment tout le monde à aller creuser en particulier ce chapitre. Est-ce qu'il y a aussi un salut possible pour ces services de proximité, pour les infirmières qui aujourd'hui sont à la cadence, qui ne comprennent plus ce qu'elles font, qui sont aussi face à cette crise de sens?
Justement, sur le cas des infirmières, c'est intéressant, ça boîte une tarte à la crème parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup écrit, mais il se trouve qu'on a un modèle. Ce modèle, on le trouve, il est très très bien décrit par Frédéric Laloux dans Reinventing Organization. C'est le modèle qui a été mis en place par une entreprise qui n'arrête pas de grandir, qui est l'entreprise Wurtzorg aux Pays-Bas, qui est présente également en Belgique, qui a même ouvert en France, qui propose des soins infirmiers à domicile avec une entreprise où les infirmières sont autonomes, responsables et créatives, sont organisées en cellules où elles sont parfaitement indépendantes et en mesure d'apporter dans leur service autre chose que la piqûre ou le pansement, une relation qui est une relation de soins dans toute sa totalité. C'est qu'en réalité, tenir la main et rassurer et dire un mot, c'est quelque chose qui est parfois beaucoup plus important que la molécule en elle-même qui va être injectée. On le sait qu'au niveau hormonal, il se passe des choses incroyables quand on est stressé, que le taux de cortisol et puis l'adrénaline, etc., ça va faire que les autres fonctions de l'organisme marchent moins bien et qu'on risque de développer des ulcères, etc. On le sait qu'il y a des effets placebo, des effets nocebo. On le sait que finalement, en dehors de la... Ça, on l'a mesuré scientifiquement. On le sait que la distinction qu'on a faite historiquement entre ceux qui savent, qui connaissent hein, les médecins, et puis ceux qui soignent, puis qui ils sont là, ils tiennent la main, ils ne comptent pas. On sait que cette distinction-là, elle est profondément artificielle dans le soin. Et qu'en fait, la médecine ancestrale, qu'il s'agisse de la médecine chinoise ou de ce que faisaient les sorcières au Moyen-Âge, c'est une médecine où il n'y a pas cette séparation-là. Tenir la main et puis trouver la bonne plante qui va te soulager, ça fait partie d'une même chose. Et donc le métier d'infirmière qui a été dévalorisé parce que créé et défini par opposition à celui du médecin. Et puis créé et défini sur un archétype qui est un archétype féminin, qui sert un archétype qui était un archétype masculin, qui était celui du médecin. Alors aujourd'hui, la profession s'est féminisée, bien sûr, mais l'histoire vient de là, la séparation. Et cette séparation-là, elle est artificielle et elle a conduit progressivement à une dévalorisation forte. Et puis face à des contraintes où on a asséché... On a asséché progressivement nos comptes publics et du coup on serre les boulons au niveau de tous les services publics et donc comme une partie des services médicaux sont des services qui sont financés par le public, du coup on se trouve dans cette situation où on renforce la logique industrielle dans les métiers du soin. Au mépris des patients, au mépris évidemment des professionnels qui exercent tous ces métiers. Et d'ailleurs, maintenant, hélas, ça s'applique aussi aux médecins et pas qu'aux infirmiers.
C'est vrai. Et est-ce que là, pour comme les grandes entreprises, comme que tu décrivais tout à l'heure, la situation que tu décrivais tout à l'heure en France, où finalement tu avais un espoir assez limité sur leur potentiel d'évolution, est-ce que là, pour le système de santé publique en France et le cas des infirmières et des médecins aussi, comme tu le soulignes, et des aides-soignantes, etc. Est-ce que des voies d'amélioration sont possibles ?
Alors, c'est un monde qui va être de plus en plus polarisé, en tout cas qui est en train de se polariser, et c'est ça qui est dramatique pour l'essentiel des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que il y a un système extraordinaire, un système alternatif extraordinaire qui se crée pour les personnes plus aisées, où je pense qu'il est possible d'exercer dans des conditions fabuleuses le métier d'infirmière libérale, d'avoir une bonne clientèle, des bonnes conditions de travail, d'exercer son métier dans toute sa richesse, de l'augmenter avec de se former sur l'acupuncture, se former sur que sais-je encore et d'avoir un métier plus riche à tout point de vue. Et puis qu'à l'inverse, comme on assèche et c'est pas parti pour aller dans le bon sens pour l'instant, j'espère qu'un jour on ira dans l'autre sens, pour le reste, donc les patients qui n'ont pas accès à la médecine du riche et les infirmières ou les médecins qui continuent néanmoins de s'occuper des moins riches, eh bien les conditions de travail ne sont pas bonnes. Donc il est possible d'être dans une relation de soins qui est une relation pleine et riche, mais ce dont j'ai peur, c'est que pour l'instant, c'est en train de se polariser.
Ma toute dernière question, je te chippe encore 2 minutes de ton temps. C'est quel est le conseil d'orientation que tu aurais voulu recevoir dans ton parcours ? Alors, ça peut être scolaire ou professionnel. Le conseil qui t'a manqué ?
Le conseil qui m'a manqué, c'est de dédramatiser l'importance d'un choix. Parce que quand j'avais 18 ans, quand j'avais 19 ans, quand j'avais 20 ans, je me disais c'est tellement important. Et quand j'ai eu HEC, j'étais là, oh, c'est bien, oh, c'est important, c'est essentiel et tout. Et en fait, et du coup aussi l'idée que de faire une erreur, c'était dramatique, se planter, dramatique. Et en fait, c'est pas grave du tout. Donc, je viens de dire tout à l'heure qu'il y avait une France bien adéquationniste, mais en réalité, il y a tout un monde parallèle qui est en train d'exister, où on peut assurer une transition en créant un podcast, où on peut se créer une légitimité en écrivant un truc, et où en fait l'importance du diplôme n'est plus ce qu'elle était, et en tout cas, il existe des alternatives. Et puis, on va avoir plusieurs phases de vie professionnelle. Et en fait, chaque échec est toujours un extraordinaire moment d'apprentissage, en fait. Et quand on se plante tôt, on a plus de chances de réussir après. Donc, se planter, c'est bien. Le choix n'est pas dramatique. Et on peut faire autre chose après. Et donc, juste cette phrase, c'est pas grave.
C'est ce que tu disais à tes élèves ?
Ouais.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur Apple Podcast pour y laisser, vous connaissez la chanson, vos étoiles, de préférence 5, un mot doux et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide à le faire connaître. D'ailleurs, je voulais vous parler des suites de Graines d'Orienté, parce que je risque de faire un petit break dans les mois à venir, dans les enregistrements. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, j'ai commencé en janvier dernier et j'adore cet exercice, à la fois parce qu'il m'a permis de rencontrer des personnes vraiment super intéressantes, de creuser la question du travail qui me passionne, à la fois sous cette forme de quête individuelle et plus collective de notre rapport au travail et des nouvelles formes que prend le travail. Et ça m'a également permis de nouer de super contacts avec vous. Et je remercie toutes celles et ceux qui m'ont partagé leur parcours, leurs questionnements, qui, le plus souvent voilà, étaient des questions que moi j'ai eues aussi auparavant. Donc ça a été un vrai cheminement ces quelques mois. Alors pourquoi un petit break ? Parce que je m'apprête à vivre une nouvelle expérience professionnelle. Vous pourrez suivre mon actualité bien évidemment sur LinkedIn. Et ça s'annonce super excitant. Je ne sais pas encore combien de temps, en revanche, ça me permettra d'avoir à côté pour faire du podcast. Car oui, c'est une question que vous me posez régulièrement, le podcast, ça prend du temps à faire. Comme ce soir où j'ai à peu près fait 15 versions de cet enregistrement sous ma couette, car quand je ne suis pas en studio, pour vous offrir une qualité de son à peu près correcte, eh bien c'est ma manière de faire, donc en grosso modo une tente en plein milieu du salon sous des couettes pour que ça absorbe le son. Et ça prend du temps de démarcher des gens, d'aller à leur rencontre, de faire les enregistrements, ensuite de faire le montage, puis de vous le partager sur les réseaux. Surtout que moi, c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai appris en marchant. En tout cas, j'y prends énormément de plaisir. N'hésitez pas à continuer à m'écrire. Et je vais vous tenir très rapidement au courant des formes que prendra Graines d'Orienté dans les mois, semaines à venir. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.